Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 75e épisode. Dans cet épisode, je vais parler du sujet de la domination financière dans le BDSM en posant les questions, est-ce une réalité, une exagération ou de la pure fiction ? Première partie, pourquoi cet épisode ? Ça fait longtemps que je lis beaucoup de choses, je vois passer beaucoup d'écrits, notamment dans des articles sur internet, qui parlent du sujet de la domination financière, parfois appelée FinDom, en anglais pour Financial Domination. Au fil de mes lectures, de mes recherches d'informations, de documentation sur BDSM, il y a un certain nombre de sujets que je vois passer fréquemment, d'autres beaucoup moins souvent, et certains très rarement. Parmi ceux qui sont assez fréquents et qui m'ont frappé, se trouvent des sujets qui touchent donc à cette domination financière, parce que ce qui m'a vraiment surpris, en fait, c'est leur nombre. J'en ai croisé un nombre considérable, et pour vous dire la vérité, ça m'a surpris, parce que autant parler de certaines choses classiques du BDSM, c'est pas vraiment étonnant de voir plein d'articles qui en parlent, c'est pas surprenant. Mais quelque chose comme ça, je pensais pas que c'était connu, et j'ai été étonné de voir que ça génère un tel intérêt, notamment dans des médias qui ne sont pas BDSM. Hein. Donc là, je parle par exemple de magazines sur internet, de journaux sur internet, qui parfois parlent de sexualité, mais qui ne sont pas du tout spécialisés dans le BDSM. Et il est important de noter qu'ils généralement sont écrits par des personnes qui ne connaissent pas trop le BDSM ou pas du tout. C'est assez important pour la suite. Un des endroits où j'en ai vu le plus passer, c'était dans de la presse entre guillemets féminine, donc plutôt destinée vers les jeunes femmes, éventuellement les jeunes filles, dans lesquelles des articles donc abordaient ce sujet, mais pas vraiment juste dans un angle de documentation ou d'information. Ce qui m'a vraiment intrigué et intéressé et fait me poser des questions, c'est que dans ces articles, une fois que le concept était présenté, il y avait une forte, parfois très forte, suggestion de l'idée que tout ça, en fait, c'est quelque chose qu'on peut faire si on est une jeune femme notamment pour gagner facilement de l'argent. Et ça m'a frappé. C'est pas le seul sujet comme ça qui est présenté comme étant dans le BDSM pour gagner facilement de l'argent. J'en avais parlé, si vous avez écouté mon épisode numéro 73 à propos du fétichisme payant des pieds, l'idée que il suffit pour une jeune femme de montrer des photos de pieds, des choses comme ça, pour là aussi gagner facilement de l'argent. Et j'avais expliqué que c'était plutôt n'importe quoi et que c'était très naïf de penser qu'il suffisait de faire quelques petites photos de pieds pour soudain avoir plein d'hommes qui se jettent à leurs pieds, c'est le cas de le dire, avec des tas de billets et des liasses de billets, c'est très naïf. Alors maintenant, y a-t-il une différence quand on parle de domination financière ? Je vais en parler dans la suite et c'est pour ça que je me suis posé des questions donc. Dans le même ordre d'idées, j'ai vu passer sur le site social BDSM fetlife.com pas mal d'annonces de profils de jeunes femmes principalement qui, de la même façon que pour le fétichisme des pieds, où vous trouvez exactement le même genre de proposition avec des suggestions de payer pour des photos typiquement, là on voit passer aussi assez régulièrement des propositions de domination financière. Donc vous avez des profils comme ça qui demandent des tribus entre guillemets, qui utilisent tout un vocabulaire relié à la domination financière, je vais en parler dans la partie suivante. Et ça aussi, ça m'a pas mal frappé parce que j'en ai croisé un nombre assez important, ce qui m'a amené à me poser la question, il y a bien des propositions, des offres, mais y a-t-il pour autant de la demande derrière ? Et ça m'a amené à me poser la question, tout ça on en parle beaucoup, mais est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que vraiment il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par ça, essentiellement des hommes, je vais y revenir ? Ou bien est-ce que c'est exagéré, c'est-à-dire comme beaucoup de choses dans le BDSM et dans le sexe ? On en parle beaucoup, on en fait toute une montagne, mais en réalité derrière, il n'y a pas grand-chose, et c'est très fortement exagéré, on monte vraiment les choses en épingle. Ou bien la dernière hypothèse carrément, est-ce que tout ça c'est bidon ? Est-ce que c'est de la fiction ? Est-ce que ça n'a pas de véritable existence ? Je me suis donc dit, pourquoi ne pas faire un épisode de mon podcast sur ce sujet ? Parce que c'est vraiment un sujet que vous avez pas mal de chances d'avoir déjà vu passer, et que quand vous lisez tous ces articles, ils sous-entendent vraiment que c'est quelque chose de répandu. Personnellement, j'avais des doutes, j'ai un peu enquêté, et je vais vous présenter donc les résultats de mes réflexions sur ce sujet. Deuxième partie, qu'est-ce que c'est exactement que la domination financière ? Quelques définitions du vocabulaire et des discussions sur là où ça commence, là où ça s'arrête, et la difficulté de donner une vraie définition à ce terme. Le premier problème, c'est un problème assez récurrent quand on parle de BDSM, c'est que tout le monde n'est pas d'accord sur les définitions, et évidemment, ça rend les discussions un petit peu difficiles. Comme dans BDSM, il n'y a personne qui soit représentant de tout le monde, toutes les personnes qui font du BDSM. Il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas d'organisme qui puisse centraliser, qui puisse décider, par exemple, d'adopter tel ou tel terme pour telle ou telle pratique. Il n'y a évidemment pas d'autorité centrale, pas de référence, et ça pose des tas de problèmes quand on commence à parler de vocabulaire. En général, ce qui se passe, c'est que un terme apparaît parce que une personne, des groupes de personnes l'ont utilisé de façon un peu informelle, ça attire l'attention d'autres personnes, ça se répand comme ça, de façon très informelle, et c'est plus ou moins adopté, mais pas toujours avec les concepts d'origine qui sont parfois perdus. Et puis, il y a pas mal aussi de discussions après, évidemment, sur la portée des mots, sur est-ce que tel terme est mieux. Bref, évidemment, de façon assez compréhensible, il y a de grandes difficultés à se mettre d'accord sur des termes, puisque tout ça ne peut pas être coordonné par nature. Et encore, là, je vous parle dans l'optique de personnes qui échangent sur le sujet du BDSM. Par exemple, ça va être les personnes qui vont dans des événements, mais surtout qui échangent sur des forums, des groupes de discussion. Parce que c'est là, évidemment, que peuvent réellement se former un certain nombre de discussions, d'argumentations, etc., d'où vont émerger éventuellement des termes qui vont être retenus. Mais tout ça, c'est très peu clair, c'est pas du tout organisé, bien entendu. Donc on peut avoir les termes qui finissent par émerger plus ou moins par une espèce de consensus, mais en général, ce consensus, il n'existe que au sein d'un groupe très petit, très restreint de personnes, parce que les personnes qui échangent sur ces sujets, c'est quand même une minorité. Ensuite, on n'est pas sûr que le terme sera adopté, que les personnes en face comprendront exactement ce qu'ils voulaient dire au début, etc. Bref, c'est compliqué, et ça explique pourquoi beaucoup de termes dans BDSM sont assez ambigus. Il y a beaucoup de discussions sur leur portée, etc. Même pour le terme BDSM, par exemple, il y a encore des discussions, parfois des définitions qui sont données qui ne sont pas identiques. Et pourtant, le terme BDSM, de nos jours, c'est vraiment bien répandu, évidemment, et il est relativement accepté. Parce que ça simplifie la conversation, hein, tout simplement. Mais si on analyse la formation du terme, il y a plein de discussions qui sont possibles, parce que le concept même d'avoir comme ça groupé les trois grandes catégories identifiées comme étant majeures, entre guillemets, dans le BDSM, donc bondage and discipline, domination-soumission et sadomasochisme, c'est très discutable, c'est très discuté, parce qu'il y a plein d'autres pratiques qui sont rattachées au BDSM, qui ne tombent pas vraiment ou mal dans ces catégories. Tout ça, c'est compliqué, c'est ambigu, et donc c'est pas évident hein, de trouver des termes sur lesquels tout le monde puisse être d'accord. Et ensuite, il faut faire très attention à un gros problème, c'est que tout le monde n'a pas la même conception pour le même mot, pour le même terme. BDSM, ça va, la plupart des personnes qui ont entendu le terme voient à peu près de quoi il retourne, mais vous avez un certain nombre de termes, il faut vraiment faire très attention, parce que si vous parlez à quelqu'un de tel ou tel sujet, il est parfaitement possible que la personne en face comprenne vraiment autre chose. C'est pour ça que j'avertis notamment les personnes qui débutent de faire vraiment attention lors de conversations, lors de discussions, surtout entre personnes qui débutent, de bien définir entre les deux personnes, attends, de quoi on parle exactement? Qu'est-ce que tu entends par ceci, cela, etc. Sinon on risque vraiment des gros malentendu et ça peut être très gênant ou pire dans les cas les plus extrêmes. La domination financière, c'est un des termes qui pose problème. Et ce, d'autant plus que le terme s'est un peu répandu dans le grand public, on le trouve dans les médias en général, donc hors d'un contexte BDSM, et comme c'est quelque chose qui est relié à l'argent, je vais tout de suite en reparler, forcément, quand il y a de l'argent, il y a pas mal de personnes qui ont des mauvaises mentalités qui entrent dedans, et vous obtenez très vite des déformations de l'idée d'origine dans des objectifs plus ou moins douteux, ou qui sont juste des incompréhensions ou des désaccords. Par exemple, à l'heure actuelle, quand on lit sur la domination financière dans des forums, il y a des personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, qui se plaignent que le terme ne veut plus rien dire, parce que il y a des personnes qui se sont emparées du concept, du mot « findom », et qui se le sont appropriées pour faire dire au mot quelque chose d'autre, et c'est un problème. Donc il n'y a pas réellement de définition, mais ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est une explication de la conception plus ou moins d'origine du terme, avant qu'il y ait des personnes qui s'en emparent pour totalement le triturer, lui faire dire complètement autre chose, et ce que je pense être à peu près l'idée générale sur laquelle la majorité des gens qui s'intéressent au sujet seront d'accord. Même si après on peut pinailler sur la façon de l'exprimer, je vais essayer de vous faire une présentation raisonnable des concepts sous-jacents. Donc, domination financière, ou en anglais findom, pour financial domination, C'est tout simplement donc l'idée d'avoir entre deux partenaires une relation de domination, mais au lieu que ce soit une relation de domination verbale, psychologique, etc., il y a un aspect financier. Donc, qui dit aspect financier dit que la personne qui est soumise, qui est dominée financièrement, va, par exemple, offrir des cadeaux, envoyer de l'argent, rendre des services financiers quels qu'ils soient à la personne qui est dominante, financière donc, hein. Et généralement tout ça, ça se passe par Internet. Donc, le contrôle, au lieu de s'effectuer de façon plus classique, donc purement mentalement, s'effectue par un côté financier des échanges d'argent qui vont parfois très loin. Par exemple, vous avez certaines personnes qui donnent l'accès à leur compte bancaire hein, à la personne qui les domine financièrement. Donc là, ce sont des cas extrêmes, bien sûr, parce que c'est extrêmement risqué, vous l'imaginez sans peine. Mais donc, le facteur principal, c'est vraiment ce côté financier. L'idée sous-jacente, bien sûr, c'est que de voir comme ça donner de l'argent, faire des offrandes, faire des cadeaux, etc., ça procure plusieurs choses à la personne soumise. Le côté humiliation, alors là, on est très proche de la domination-soumission normale, hein, non financière. Vous avez évidemment le fait que tout ça, c'est une forme de soumission, tout simplement, hein, parce qu'on obéit à quelqu'un. Et vous avez, bien entendu, de façon évidente, le côté échange de pouvoir. Donc vous voyez, finalement, c'est assez proche de la domination-soumission classique, mais là, on se centre sur un côté financier. Après, il y a des discussions, alors c'est pas évident de dire où est la frontière. Est-ce que une domination financière doit être pure, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que c'est uniquement une relation financière ou est-ce qu'il y a d'autres activités qui s'y rattachent? Est-ce que les personnes éventuellement se rencontrent, etc.? Sur ce sujet, il y a des débats, et il n'est pas évident du tout de donner une explication, une définition, etc., parce que là, franchement, ça va dépendre des gens. Ce dont je vais parler ici, je vais parler un peu du côté, entre guillemets, pur de la domination financière, qui consiste essentiellement à un rapport à distance. Parce que, en tout cas, de nos jours, quand on parle de ça, on parle généralement implicitement du côté domination à travers Internet, à travers des moyens de communication par Internet, typiquement à travers des emails, du chat, éventuellement de la vidéoconférence ou par téléphone, hein, bien sûr, mais pas de rencontre. Pourtant, ce serait pas impossible. Hein. On pourrait parfaitement avoir, par exemple, la personne soumise qui fait une sortie avec l'autre personne dans le but de lui acheter des choses. Ça se fait. J'ai lu des témoignages de femmes dominantes faisant ce genre de choses qui faisaient exactement ça, qui sortaient avec un homme soumis financièrement, entre guillemets, et le but de la manœuvre, en fait, c'était d'aller dans des magasins un peu chers et elle lui ordonnait de leur acheter ceci ou cela. Mais en général, quand on parle plutôt vraiment de ce côté choses qui sont faites à distance sans une vraie rencontre physique, et même pas forcément d'autres types de domination que une exigence de payer. Parce que, évidemment, vous avez des personnes qui rajoutent plein de choses là-dedans, de la domination, du genre les insultes, etc., hein, bien sûr, à des degrés divers. Alors, il faut que je précise une chose. Pour vraiment pouvoir parler de domination financière, faut vraiment que ce soit, pour que ça ait du sens, dans une relation, c'est-à-dire que ce soit pas quelque chose de ponctuel. Par exemple, si vous achetez un cadeau à un ami, une amie, ça va pas être de la domination financière. Même si vous payez, par exemple, un gadget, quelque chose comme ça, ça ne sera pas de la domination financière. Ça en deviendrait si ça devenait pour l'ensemble des fois où vous avez une relation avec la personne, que systématiquement, ce serait donc payant, avec des cadeaux, etc. Donc le cadeau ponctuel ne va pas être compté comme de la domination financière, parce que sinon, presque tout ce qu'on fait en fait va être de la domination financière, hein, si on raisonne dans ce sens-là. Je veux aussi établir une différence avec l'escorting BDSM et le sugaring. L'escorting BDSM, je vous rappelle, c'est le BDSM payant. J'en ai parlé dans mon épisode numéro 56, dans lequel je présentais donc l'escorting BDSM dans le travail du sexe. Le sugaring, comme on dit, vous connaissez peut-être les expressions sugar baby, sugar daddy, ce sont des relations dans lesquelles on a une personne, typiquement c'est un homme, mais ça existe aussi avec les femmes, qui va donc donner de l'argent à son sugar baby en échange de sorties, de venir chez lui, etc. Pas forcément beaucoup pour avoir du sexe, c'est théoriquement distinct de l'escorting à ce niveau-là. L'escorting, c'est vraiment l'idée, on paye pour avoir du sexe. Le sugar baby, sugar daddy, l'idée c'est plus vaste. C'est plus une idée de je paye plus ou moins pour avoir une petite amie, typiquement quand on est un homme, hein, avec laquelle on fait un certain nombre de choses, dont généralement du sexe aussi, mais on fait aussi d'autres choses. Et ça peut par exemple prendre des formes du genre donner de l'argent de poche tous les mois à donc son entre guillemets baby. Alors là aussi, il y a de l'argent qui est impliqué, hein, on est d'accord. Mais vous voyez, les deux que je viens de vous présenter, l'escorting, le sugar baby, sugar daddy, ne sont pas de la domination financière. Parce que dans l'un des cas, c'est vraiment purement une rencontre dans laquelle on fait plein de choses, notamment de la domination, mais c'est plus de la domination financière. On paye pour de la domination qui peut être de la domination mentale, physique, le SM, être attaché, etc. On paye pour un service. Et dans le cas du sugar baby, c'est on paye pour avoir une relation, mais une relation où on se rencontre. Et qui d'ailleurs n'a pas forcément de côté domination, parce que le sugar baby, c'est pas spécifiquement BDSM. Hein. Il y a des gens dedans qui font du BDSM, mais c'est une minorité. Donc je voulais distinguer ces deux cas-là, parce qu'il y a quand même la question qui se pose. Hein. Du moment qu'il y a de l'argent, les choses deviennent floues, mais je pense qu'il est raisonnable de vraiment bien distinguer la domination financière. Quand on parle de domination financière, la plupart du temps, on parle d'une femme qui domine des hommes. En tout cas, c'est ce cas-là qui est évoqué dans à peu près tous les cas que j'ai vu passer. La raison exacte, je m'avancerai pas à trop formuler d'hypothèses, ça doit être assez complexe. Je pense qu'on peut assez facilement y trouver un certain nombre de stéréotypes de genre, etc., qui expliqueraient assez aisément pourquoi est-ce que c'est plutôt dans cette direction-là, mais peu importe. Donc généralement, ça va être une femme, une jeune femme, qui propose donc à un ou des hommes de la couvrir de cadeaux et d'argent. Et vous avez probablement vu passer les termes utilisés parfois pour les clients. Certains, je pense que vous les avez déjà vu passer parce que c'est ultra fréquent de nos jours. Le plus connu probablement, c'est « pay pig », littéralement « cochon qui paye » ou « cochon payant ». Un autre terme qui est assez fréquent, c'est « money slaves », littéralement « esclave argent » ou « esclave financier ». Un autre terme utilisé assez fréquemment aussi, c'est human ATM. Là, ça veut dire distributeur de billets humains. C'est, à mon avis, plus clair comme terme que les deux autres. Celui que je pense le plus utilisé, enfin celui que je vois passer le plus souvent, c'est PayPig. Vous avez noté que PayPig, c'est un côté humiliant, très humiliant, parce que le côté cochon, sale porc, etc., vous voyez, c'est évidemment quelque chose d'humiliant et d'assez classique. Pour revenir sur la façon dont ça se passe, c'est assez variable. Pour ce que j'ai pu lire, il y a vraiment de tout. Hein. Ça peut être vraiment des choses assez simples, avec des interactions par des chats, des messageries privées, des emails. Certaines personnes utilisent des moyens beaucoup plus évolués, avec des vidéoconférences par exemple. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, vous avez dans certains cas donc carrément de la domination faite à travers Internet, c'est-à-dire que la femme dominatrice demande à l'homme soumis d'installer un programme qui lui permet à elle d'accéder à son ordinateur et de voir ce qu'il fait carrément, de prendre le contrôle de son ordinateur. Et dans les cas les plus extrêmes, hein, que j'avais déjà décrit tout à l'heure, il y a des cas visiblement où des hommes donnent l'accès complet à leurs finances. Alors je présume quand même que ce genre de cas doivent être rares, parce que c'est extrêmement risqué, ça pose des problèmes légaux, etc. Enfin, je vous passe les détails, mais je pense de toute façon que vous voyez assez vite les problèmes que ça peut poser. Comme pour tout, quand on parle de BDSM, de sexe, etc., il faut pas caricaturer et simplifier, hein, et ne voir qu'une seule façon de faire les choses. Des différents témoignages que j'ai pu lire, notamment de femmes qui font donc de la domination financière, il y avait vraiment des variations dans la façon de faire, mais aussi dans l'intensité. Évidemment, c'est pas la même chose que de demander d'acheter des cadeaux, par exemple en faisant une liste sur un site marchand, que de donner l'accès complet à ses finances. Il y a clairement un gouffre monumental, hein, entre les deux. Et de la même façon, comme pour tout ce qui est payant, hein, vous avez des personnes qui sont plus exigeantes, qui fournissent plus de choses, etc. Donc ça peut aller de choses qui sont petites à des choses qui sont extrême, folle. Évidemment, vous vous en doutiez probablement, et je viens de le dire implicitement plusieurs fois, il y a un risque fort de rencontrer des arnaques dans ce genre de milieu, parce que, de façon claire, dès qu'on parle d'argent, il y a des problèmes, et quand on parle de sexe et d'argent, c'est épouvantable bien souvent, le BDSM n'y échappe pas, j'y ai même consacré mon épisode 71 qui s'appelait « Pigeon, attention aux escroqueries dans le BDSM ». Le titre vous donne déjà une bonne idée, si vous l'avez pas écouté, du type de problème qu'on peut rencontrer. Et qui dit argent dit évidemment escroquerie, arnaque en tout genre. Et en plus de ça, le gros problème avec la domination financière, c'est que si ça se passe, comme c'est le cas dans la plupart des cas, à travers Internet, vous ne savez pas qui est en face. Et la personne en face, ça peut être totalement bidon, bien sûr, des gens qui sont pas du tout sincères dans leur démarche, évidemment. Et ça peut aussi, ce qui est plus gênant, et que j'avais déjà décrit dans d'autres épisodes, dont le 71, ça peut être des fausses femmes, c'est-à-dire des hommes qui se font passer pour des femmes. Ce qui casse un petit peu, pour ne pas dire plus, l'intérêt de la chose quand même. Mais de façon générale, c'est sûr que ce domaine-là est probablement un des pires, peut-être le pire même, du point de vue risque d'arnaque. De façon évidente, hein. Je vais même pas développer plus, vous comprenez tout de suite toutes les possibilités d'escroquerie possibles. Et bien entendu, j'imagine aussi que vous l'avez tout de suite perçu, ce problème-là, c'est que ce type de relation, même si la personne en face, la dominatrice, est sincère, c'est-à-dire que vraiment, elle fait ça pour de la domination, même si c'est financier, même dans ces cas-là, vous avez des risques de dérapage qui sont très forts. Et j'ai vu par exemple des témoignages hein, qui n'étaient pas très plaisants à lire, parce que vous avez des personnes qui donnent tout ce qu'elles ont. Donc là, ça peut être dramatique. Et bien entendu, vous avez aussi des femmes qui abusent complètement de la situation. Donc là, c'est pas une escroquerie dans le sens où je l'ai présenté à l'instant, mais c'est un autre type d'arnaque là. Ça va être tout ce qui est profiter de la faiblesse de la personne en face, des problèmes éventuellement psychologiques de la personne en face. Bref, profiter de la situation. Je pense que j'ai pas besoin d'insister, vous voyez immédiatement que ça va être un risque énorme. Et même si quelqu'un commence comme ça à dominer quelqu'un sans avoir forcément une attitude nocive et malsaine, une fois que l'argent rentre facilement, ça peut être très tentant de continuer à demander un peu plus, et même éventuellement d'ailleurs de pas se rendre compte qu'en face, la personne, elle sacrifie tout. Parce que ça, vu que la relation elle est uniquement virtuelle, c'est pas forcément évident de s'en rendre compte. Donc vraiment, je pense que ça fait partie des types de relations BDSM potentiellement les plus nocives et dangereuses, franchement. Maintenant, évidemment, vous allez vous demander pourquoi est-ce que des gens s'intéressent à ça? Pour les dominatrices, ça se comprend, on n'a pas de souci à comprendre. Mais pour les hommes qui payent, pourquoi? Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, hein. Quand on parle de BDSM, il y a souvent des pratiques, c'est pas évident de comprendre la raison, la motivation des gens. Même des choses qui sont très connues du BDSM, comme la fessée, le fouet. C'est pas si évident de les expliquer, parce que quand on vous donne une explication, la plupart du temps, moi je dis, attention, peut-être que cette explication a du sens pour certaines personnes, c'est pas pour autant qu'elle a du sens pour d'autres. Le cas du SM est un très bon exemple. Quand on en parle, souvent, il y a un focus, vous voyez, uniquement sur un certain type d'intérêt, en oubliant les autres. Et ça, c'est un gros problème. Et dans BDSM, et aussi dans le fétichisme d'ailleurs, c'est généralement difficile de réellement trouver des raisons, d'autant plus que, la plupart du temps, les personnes qui veulent à tout prix trouver une raison, cherche une raison. Or, pour moi, de mon expérience, de ce que je vois, hein, depuis des années, ce que j'ai pu analyser, et même quand je regarde ce que moi je fais et que j'essaye de comprendre pourquoi, c'est clair qu'il n'y a pas une raison. Ça va être une combinaison de facteurs. On ne peut pas réduire le BDSM à, par exemple, c'est dû à un traumatisme étant jeune, par exemple. Vous voyez, ça, c'est une des explications qui vous sont souvent proposées de façon assez virulente, mais qui ne tient pas la route. Il est facile de montrer qu'il y a plein de personnes pour lesquelles c'est pas la raison. Donc, c'est clair que peut-être pour certaines personnes, c'est la raison, peut-être. Ce n'est certainement pas pour d'autres, et même si c'est une partie de la raison pour certaines personnes, on n'a aucune garantie que c'est la seule raison. Et franchement, tout ce qui est sexualité et le BDSM, ce sont des choses assez complexes. Hein. Faut pas essayer, pas s'imaginer qu'on va trouver une raison simpliste. Hein. Il y a trop de facteurs qui interviennent. Il y a les facteurs physiques, les facteurs psychologiques, sociaux, etc., relationnels. C'est compliqué. Donc moi, je mets toujours en garde, attention, surtout à ne pas tomber dans ce piège-là, de pas chercher une explication, et encore moins une explication simpliste. Pour ce qui est de la domination financière, il y en a hein, des tentatives d'explication. J'en ai vu passer un certain nombre. C'était pas beau à voir. Franchement, un bon nombre de celles que j'ai vu passer... Non, non, ça me faisait tiquer. Il y avait des explications plus ou moins psycho, machin, ce que machin, qui étaient pas vraiment convaincantes, parfois qui étaient bizarres, parfois qui étaient plus que douteuses. Hein. Il y avait souvent aussi des explications, des visions simplistes. Or, je viens d'expliquer, hein, faut jamais utiliser une vision simpliste, hein, parce que ce sera toujours faux. Et puis, comme toujours, hein, vous avez des explications qui sont basées sur l'examen de quelques personnes, qui en général, en plus, sont des cas hors normes. Notamment des personnes qui ont des problèmes, par exemple, chez qui c'est devenu pathologique, c'est devenu une obsession par exemple, ils peuvent plus vivre sans et ça devient vraiment un gros problème. On peut pas tirer de conclusion de cas comme ça, c'est le problème général avec le BDSM. Donc, personnellement, j'irai pas trop m'avancer à donner vraiment des raisons, je pense que je les ai déjà données tout à l'heure, ça va être les mêmes types de raisons que pour la domination, c'est-à-dire tous les côtés, humiliation, la soumission, l'échange de pouvoir, etc. Aller au-delà, je ne m'y risquerai pas trop, c'est un peu trop risqué pour moi en tout cas. Troisième partie, alors, est-ce que la domination financière, ça existe? Est-ce que c'est une exagération? Ou est-ce que c'est complètement bidon et ça n'a pas de véritable existence? Je pense que j'ai déjà, pour une bonne partie, hein, répondu à ces questions dans les parties précédentes, implicitement en tout cas, parce que quand j'ai détaillé par exemple comment ça se passe, forcément, si je parlais de comment ça se passe, ça veut dire que ça existe. Donc, on peut déjà dégager l'idée que ça n'existe pas, que c'est une invention, ou que c'est si minoritaire que c'est vraiment anecdotique. Ça, on peut le dégager, c'est sûr que ça existe. Par contre, la question qui reste posée, c'est dans quelle mesure ça existe? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps, quelque chose d'assez fréquent, ou est-ce que c'est relativement ou même très répandu? Point d'interrogation. Là, c'est un petit peu plus difficile de répondre, mais je pense quand même avoir trouvé des éléments de réponse. Avant d'aller plus loin, je précise que j'ai fait de petites recherches sur le sujet qui n'ont pas été faciles et qui n'ont pas donné des résultats super convaincants, franchement. Par exemple, il y a très peu d'études scientifiques sur le sujet. Franchement, j'en ai trouvé que une qui est à peu près bien, que j'ai sous les yeux là, et sinon, c'était plutôt moyen hein, ce que j'ai trouvé. Vous trouvez énormément d'articles qui en parlent, ça c'est pas un problème. Par contre, des choses sérieuses, des articles scientifiques, c'est la misère. Du coup, ce que je vais vous dire, évidemment, c'est basé sur des raisonnements et des observations qui ne prétendent pas être super rigoureux, mais qui, je pense quand même, devraient à peu près cerner la réalité. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller regarder sur le site social BDSM fetlife.com. J'ai déjà utilisé cette technique dans d'autres épisodes pour d'autres recherches. À défaut de pouvoir réellement faire des enquêtes profondes, scientifiques, etc., on peut quand même obtenir quelques éléments intéressants, même s'ils sont pas très scientifiques, ou pas du tout, en allant observer quel est le nombre de personnes, par exemple, qui discutent d'un sujet. Je l'ai déjà fait pour d'autres épisodes, et là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir sur ce site, dans les forums, et j'ai tout simplement regardé les forums de discussion sur les sujets de type domination financière. Il y en avait beaucoup, il y en avait un nombre surprenant. Le plus gros que j'ai trouvé, et je les ai pas tous regardés parce qu'il y en avait des centaines, il avait plus de 12 000 abonnés. C'est pas énorme dans l'absolu parce que le site a des millions de membres, mais c'est quand même pas négligeable et j'en ai vu passer un certain nombre d'autres qui avaient aussi des milliers de personnes. Le problème par contre, c'est que ça montre qu'il y a donc au moins un intérêt. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est qu'une grande partie quand même de ces forums était orientée d'une façon très spécifique. C'était les offres de la part de femmes dominatrices qui disaient « Je suis là, venez me gâter, venez me faire des cadeaux, venez être mes esclaves financiers. » Du coup, évidemment, c'est un petit peu délicat de conclure des choses parce que vous pourriez avoir des millions de propositions et personne en face. Ce n'est pas le cas. Je sais que c'est pas le cas, mais vous voyez, le problème, c'est que c'est pas évident de trouver une estimation, même très globale, de est-ce que réellement il y a des personnes en face. Un deuxième problème, que je cite aussi, c'est que quand on va dans les forums, faut faire attention à bien distinguer la réalité de la fiction. Le fantasme, la fantaisie, les délires naturels, hein, bien entendu, qui sont très présents. Et vous avez beaucoup de sujets comme ça. Le CNC, c'est un assez bon exemple. Le consensuel non-consent, dont j'ai déjà parlé précédemment, a aussi ce type de choses. Vous avez pas mal de personnes qui en parlent, qui parlent beaucoup, mais vous avez beaucoup moins de personnes qui le font en vrai, et même les personnes qui le font en vrai, c'est souvent nettement plus calme, nettement moins intense que ce dont on parle quand on est en pleine fantaisie, en délire, quand on fantasme, ce qui est parfaitement normal. Ici, vous avez le même problème. J'ai été aussi regarder d'autres forums pour voir un peu ce que les personnes intéressées par le sujet disaient. Il y avait des discussions, notamment c'est là que j'ai vu les discussions sur le problème que pose la récupération du terme findom par des personnes qui veulent totalement parler d'autre chose. C'est clair que là aussi c'est assez actif, donc il y a pas mal de personnes intéressées, mais ça ne prouve pas que ces personnes, elles en font vraiment. Et même si ces personnes en font vraiment, donc, de la domination financière, et là il y avait clairement des hommes hein, qui parlaient, pour une grande majorité c'était des hommes, en tout cas ce que j'ai pu voir. Et ce dont il parlait, on voyait clairement que c'était des clients au moins potentiels ou au moins qui fantasmaient dessus. J'irai pas jusqu'à dire plus que ça parce que c'est pas très clair. Donc ça soulevait quand même des discussions. Il y a des groupes entiers hein, qui sont dédiés sur différents forums de sexualité. C'est clair que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde et ça justifie à mon avis, ça explique en tout cas pourquoi il y a eu tant d'articles dans des magazines, etc. qui en parlaient. Je sais qu'il y a des personnes, des hommes, qui font ce genre de choses. C'est absolument certain. J'ai lu des témoignages. Notamment, j'ai lu un témoignage assez dramatique, je l'ai sous-entendu dans la partie précédente, d'un homme qui avait pas beaucoup de moyens financiers, mais c'était pour lui devenu une obsession. Et il sacrifiait tout à sa dominatrice financière, au point qu'il en est arrivé à ne plus pouvoir vivre de ses revenus, et il s'est retrouvé dans de gros problèmes. Il a fallu qu'il fasse appel à une aide médicale, en fait, qui lui ont mis autant qu'il pouvait en fait des limites pour essayer de le convaincre qu'il fallait absolument qu'il arrête parce que là il courait vraiment à la ruine et en plus il avait des problèmes médicaux hein. Donc c'était une sale situation et c'était un exemple franchement d'abus, c'était clairement un exemple où c'était même plus du dérapage à ce niveau-là hein. En dehors de ça, j'ai vu passer quelques témoignages à droite à gauche, mais pas tellement. Et ce qui est ennuyeux, c'est que dans les études, par exemple l'étude dont j'ai parlé tout à l'heure, quand vous avez des interviews de personnes qui font ça, ce sont les interviews de femmes dominantes, financières bien entendu. Du coup, vous voyez, le problème, c'est que on est obligé de se fier à ce qu'elles racontent. Et elles, soit elles peuvent ne pas dire la vérité, soit elles peuvent exagérer ou ne raconter que des anecdotes. C'est un peu difficile de conclure des choses quand on n'a pas aussi un peu accès, plus en tout cas accès, aux personnes qui sont dominées financièrement. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment trouvé d'études qui soient sérieuses et qui aient réussi justement à trouver comme ça un certain nombre d'hommes qui accepteraient de témoigner, en fait. Dans le cadre d'une étude, j'entends. Cela dit, si on se fie à ce que disent donc ces femmes interviewées, pour un certain nombre d'entre elles au moins, ça semble assez bien marcher. Il y en a même carrément qui se font beaucoup d'argent avec ça. Mais ça va être quasiment à coup sûr, une petite minorité, parce que forcément, pour arriver à recruter, etc., je pense qu'ils sont allés regarder sur des sites qui proposent ce genre de choses. Ils sont pas allés demander à la nouvelle venue dans le BDSM qui vient juste de passer une petite annonce sur le site social FetLife. Certaines parlaient vraiment de choses extravagantes, franchement, probablement vraies, parce que dans mon expérience, ça sonnait vraiment vrai, mais des choses qui sont hors normes, notamment avec des gens vraiment aisés, des hommes vraiment aisés, et qui se permettaient de faire des cadeaux, des voyages, etc., qu'une personne normale, moyenne, ne pourrait jamais faire, évidemment. Donc là, c'est une vision très déformée des choses, bien sûr. On parle que d'une infime minorité de personnes. Personnellement, chaque fois qu'on parle d'argent, j'ai tout de suite des doutes. Parce que l'expérience montre, c'est pas vraiment surprenant, que même si vous avez pas le problème d'avoir simplement de l'argent, et les gens, ils ne jettent pas comme ça leur argent par les fenêtres. Donc, faut vraiment avoir une raison pour payer. Et j'ai bien vu en plein d'occasions, je vais pas entrer dans les détails, mais c'est pas évident de demander, même contre un service, d'être payé à sa valeur. Vous avez typiquement l'exemple des escortes BDSM, notamment des femmes dominatrices, qui ont des gros problèmes à ce niveau-là, puisque les clients, en général ce sont des hommes, ont assez souvent tendance à vouloir en demander plus ou moins cher, parce que tout ça, ça coûte assez cher et tout le monde n'a pas les moyens. Donc dès qu'on parle d'argent, c'est pas vraiment une surprise, je vous surprends pas en disant ça. Soudain, tout devient plus difficile, et pour faire payer les gens, faut vraiment qu'ils aient quelque chose en retour qui les motive vraiment. Et quand on voit les difficultés rencontrées, par exemple, dans l'escorting BDSM ou l'escorting en général, c'est là qu'on se rend compte que y a des gens qui payent, c'est sûr, il y en a même pas mal, typiquement des hommes, mais faut pas s'imaginer non plus que c'est tout le monde, très loin de là. Du coup, pour quelque chose d'aussi spécifique que la domination financière, il y a de quoi se poser de grosses questions. Personnellement, je pense que c'est pas très plausible que ce soit quelque chose de très répandu. Le service rendu est vraiment très spécifique. Par exemple, il n'y a pas de rencontre physique, il n'y a pas non plus, en général, de photos, de vidéos qui seraient faites à la demande, privées, réservées, etc. Le genre de choses qu'on trouve par exemple sur des sites du genre OnlyFans. Donc vraiment, là, l'attrait de la chose est vraiment super restreint, super limité. Donc je pense que ça doit énormément restreindre le nombre de clients potentiels, même s'ils ont d'argent. Et pour se faire plaisir de cette façon-là, parce que quand même on en retire un plaisir, bien sûr, mais pour se faire plaisir de cette façon-là, je pense que si on n'a pas déjà d'assez bons moyens, il y a plus que de quoi hésiter. C'est quelque chose qu'on pourra peut-être faire une fois ponctuellement, parce que voilà, se faire plaisir une fois, c'est une chose. Mais après, le faire vraiment un peu de façon récurrente, ce qui est quand même le but de ce genre de choses. Personnellement, je crois pas que ça puisse être répandu, tout simplement à cause de ça. S'il n'y avait pas un facteur monétaire, ce serait probablement beaucoup plus répandu. Mais dès qu'il y a une problématique d'argent, même si c'est pas forcément très cher, je veux dire, on va pas vous demander 5000 euros à chaque fois que vous parlez à la dominatrice. Du moins, je pense qu'il y en a quelques-unes qui font ça, mais ça doit être une infime minorité. Bref, en général, c'est pas évident de faire payer les gens. Il y a des bonnes raisons à ça, ça se comprend. Donc, à mon avis, on en parle beaucoup plus que la réalité. Et je pense, je suis pas donc capable de vous donner des chiffres, mais franchement, vu ce que je vois passer, vu mon expérience en général du BDSM payant, de toutes les difficultés que ça comporte, dès qu'il y a de l'argent mis en jeu, il y a plein de problèmes, tous les problèmes rencontrés par les escortes, etc., ça me donne vraiment pas le sentiment que ce soit possible qu'il y ait plus qu'une très faible minorité d'hommes qui puissent suffisamment justifier leur attrait, leur envie pour ce genre de choses, pour pouvoir le faire. Ou alors ce seront vraiment des gens qui ont les moyens, ça existe ça, j'en ai parlé tout à l'heure, mais là c'est vraiment une toute petite minorité. Donc tout ça mis bout à bout, j'en conclus que ça ça existe, j'en suis sûr. Ça doit être suffisamment répandu pour que quand même on puisse rencontrer un certain nombre de personnes qui le font, qui payent, mais je pense qu'il est absolument invraisemblable que ce soit ne serait-ce que un tout petit peu répandu. C'est totalement invraisemblable. Et je ne vous parlerai même pas du cas extrême des hommes donc qui donnent carrément accès à leur ordinateur et ce genre de choses. Là, c'est tellement risqué en plus que ça doit être un nombre totalement dérisoire. Probablement que ça se compte sur les doigts des mains, ce genre de personnes. Enfin, un dernier argument que j'avais pas encore évoqué, que je gardais pour la fin, c'est que vous imaginez bien que quand il y a des dépenses d'argent comme ça, qui peuvent être quand même pas négligeables, ça pose un problème si vous êtes en famille. Si vous êtes en couple, par exemple, ça va être un petit peu difficile de faire passer des grosses dépenses comme ça sans que la partenaire s'en aperçoive. Donc ça veut dire vraiment aussi que là, ça va encore plus restreindre le nombre de personnes potentiellement intéressées. Vous voyez, tout ça mis bout à bout, vraiment. Je pense que on s'oriente vraiment dans une seule et unique direction. Ça va être quelque chose de relativement peu fréquent. Qui existe, c'est sûr. Relativement peu fréquent, c'est sûr aussi. Donc, pour moi, on en parle beaucoup, mais c'est une grosse exagération. J'avais proposé trois possibilités. Ça existe vraiment, et c'est un peu répandu. C'est une exagération, ou ça n'existe pas. Je pense que je peux dire avec une certaine confiance que ça existe, mais c'est très exagéré. On en parle beaucoup plus que la réalité ne le mérite, et de façon claire pour moi, tous les profils comme ça, de femmes, de jeunes femmes, qui proposent ce genre de choses, la plupart ne doivent quasiment jamais avoir de clients, ou très peu. C'est exactement le même problème que dans mon épisode 73 où je parlais du fétichisme des pieds, quand je parlais de la pratique de faire payer pour des photos, etc. On voit énormément d'offres, mais la demande, elle est très faible, parce qu'il faut payer, et il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de payer. Et ensuite, il faut se faire connaître, etc. Bref, tout ça, c'est difficile. Il n'y a rien de facile dans le BDSM ou dans le monde du sexe. Gagner de l'argent facile, c'est un leurre, c'est totalement un leurre. Hein. C'est vraiment très naïf de penser que ce soit si simple. À part quelques superstars ou quelques femmes, jeunes femmes qui ont des super hyper physiques et qui arrivent à se faire connaître, mais c'est l'exception. Donc je pense qu'il est risible d'avoir tous ces articles qui proposent ça, donc aux jeunes lectrices surtout, on les fait rêver en leur disant bah voilà, il te suffit d'aller insulter un homme en le traitant de gros porc, etc. Vas-y, donne-moi de l'argent. Non, si elles ont une chance incroyable, elles trouveront peut-être quelqu'un pour payer un ou deux trucs, éventuellement, mais la plupart, elles trouveront jamais rien, parce que c'est un métier de faire ce genre de choses. Il faut y passer du temps, se faire connaître, et même là, je pense, comme je viens de le dire, qu'il y aura pas grand monde. Donc, faut pas se faire d'illusions, à part les cas qui, à mon avis, sont extrêmes, qui étaient présentés, par exemple, dans des interviews, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont des cas hors normes, clairement, hein. Ce sont pas des cas qui reflètent la réalité. Et tous ces articles, donc, ont vraiment tort, c'est à la limite du honteux hein, de présenter les choses comme ça en disant « oui, vous pouvez y aller, etc. » C'est totalement décalé par rapport à la réalité, c'est clair, c'est évident. Si c'était différent, franchement, ça se saurait. Hein. Vous voyez, plus une chose est rare et peu pratiquée, plus c'est difficile de trouver des infos dessus. C'est évident, hein, je vous apprends rien. Si c'était quelque chose de vraiment fréquent, on n'aurait pas de mal à trouver des témoignages. J'aurais rencontré déjà plein d'hommes qui m'auraient dit « oui, moi je fais ça, c'est pas mon cas ». Je prétends pas avoir rencontré tout le monde, bien sûr, mais depuis le temps quand même que je me renseigne sur BDSM, j'aurais eu plus de retours. Comme j'en ai pas eu, je pense vraiment que ça souligne encore une fois que c'est très exagéré. Avant de conclure cet épisode, je voudrais traiter un dernier point qui sort un peu du périmètre, mais que je trouve intéressant. C'est la question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que la findom, la domination financière, c'est quelque chose de nouveau ? Je me suis posé la question parce que je me suis dit, en fait, quand on en parle, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de nos jours en tout cas, on le voit vraiment sous l'aspect une relation par internet, on offre des cadeaux, on envoie de l'argent, des chèques cadeaux, etc. Mais internet, c'est quand même quelque chose de récent, c'est-à-dire l'accès internet aisé pour tout le monde, c'est récent. Internet en soi existe depuis très longtemps, mais c'était pas très accessible à tout le monde. Alors, j'ai pas une réponse très claire à ce niveau-là. Il est sûr que ça s'est fortement développé en parallèle du développement d'internet, du web notamment, qui est devenu accessible à tout le monde. C'est sûr que ça s'est développé parce que ça rend possible ce type de relation que je viens de décrire. Ça veut pas dire pour autant que ça aurait pas pu exister avant, de façon diverse. Mais là, est-ce que c'était encore ce qu'on appelle de nos jours de la domination financière ? Vous voyez, ça pourrait être des choses toutes simples, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Un homme qui est invité par une femme à donc aller faire des courses, et son but c'est de servir de portefeuille à pattes. C'est de la domination financière, hein, je l'avais d'ailleurs présenté comme exemple tout à l'heure. De nos jours, on le voit plus vraiment comme ça. Ça pourrait exister. Est-ce que c'était quelque chose qu'on rencontrait dans le passé? Oui, c'est sûr. Ça a toujours existé, ce genre de choses, mais sous la forme, dans un contexte BDSM, avec les côtés humiliation, etc., je me pose la question. Parce que sortir en couple, par exemple, avec une potentielle future partenaire, ou avec sa maîtresse, ce genre de choses, et lui payer des choses, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau, ça. Mais c'est pas de la domination financière, vous voyez. Il y a rien de BDSM, il y a rien de domination là-dedans. C'est juste, on fait plaisir à sa future, ou actuelle copine, ce genre de choses. Hein. Donc je pense que ça a quand même pu, dans une certaine mesure, exister, mais à mon avis, ça devait pas être très répandu non plus, et probablement que ça ne pouvait vraiment exister que dans des conditions assez spécifiques, c'est-à-dire que les personnes se rencontrent déjà plus ou moins dans un contexte BDSM, et comme avant le BDSM, c'était quand même très très tabou, et donc ça se passait essentiellement chez soi, ou un petit peu dans les bordels, hein, les maisons closes. Plus tard, évidemment, il y a eu les clubs BDSM, mais ça représente une population tellement ridiculement petite que je pense pas qu'on puisse aller non plus y chercher trop d'exemples. Donc je me pose encore la question, je pense en tout cas qu'on devrait pas vraiment dire que ça, entre guillemets, toujours existé, parce que si dans le passé ça a existé, c'est sûr que ça a existé d'une façon ou d'une autre, mais ça devait être vraiment anecdotique et non comparable même au chiffre qui doit être très faible, qui doit exister à l'heure actuelle. Je fais cette remarque parce que je viens de lire, juste avant d'enregistrer cet épisode, des personnes dans un des forums dont j'ai parlé, qui disaient justement, en fait ça a toujours existé, mais je suis pas vraiment d'accord avec ça. Parce que eux le présentaient un peu comme étant, ça existait sous cette même forme, de façon un peu répandue. Hein. Il parlait pas du tout de choses très très ponctuelles qui ont certainement existé, mais qui devaient être très anecdotiques. En résumé, je pense que, en tout cas tel qu'on le perçoit actuellement, c'est quelque chose de plutôt nouveau, qui ne peut pas dater de beaucoup plus que la fin des années 90. Parce que, à cette époque-là, c'est quand Internet, l'accès à Internet pour tous, hein, quand ça a explosé, quand c'est devenu financièrement accessible, quand les ordinateurs sont devenus beaucoup moins chers, beaucoup plus abordables. Cela dit, de façon générale, je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a certainement eu la découverte de ce genre de choses par un certain nombre d'hommes qui ensuite ont accepté de payer, donc ça a créé, ça a donné l'opportunité d'exister pour ces types de services BDSM, mais comme je le disais, hein, faut pas non plus imaginer que tout le monde, tous les hommes qui s'intéressent au BDSM se sont mis à faire ça, donc ça reste quand même une minorité, mais qui doit être infiniment plus grosse que ce qui pouvait exister avant, tout simplement par la visibilité accrue due aux outils informatiques et Internet. Je ne sais pas si vous connaissiez déjà l'existence de ces pratiques. Je pense quand même que si vous avez un tout petit peu lu sur BDSM, il y a des fortes chances que vous soyez un jour plus ou moins tombé sur ça, que vous avez vu passer des termes du genre le pépig. C'est un terme assez souvent utilisé, même en dehors du BDSM d'ailleurs. Il a été récupéré, on le trouve un peu partout maintenant. Si vous ne connaissiez pas ou que vous aviez pas vraiment perçu ce que ça recouvrait comme réalité, j'imagine que ça vous a un petit peu surpris ou surprise d'entendre mon explication. Si vous en aviez déjà entendu parler, il y a des chances par contre, je pense, qu'on vous ait donné l'impression que c'était quelque chose de classique dans le BDSM. Je pense vous avoir montré, même si on est d'accord, je n'ai pas vraiment de chiffres scientifiques, je pense vous avoir montré quand même que c'est quelque chose de mineur, d'anecdotique. Si ça l'était pas, on aurait beaucoup plus de personnes qui font des retours, de témoignages, d'études, etc. sur le sujet. Et puis de toute façon, hein, comme j'ai dit, le simple fait qu'il y ait de l'argent qui est impliqué, déjà ça divise par 100 le nombre de personnes qui vont être intéressées. Mais si vous connaissiez pas, maintenant voilà, vous connaissez une nouvelle pratique qui peut être surprenante, hein, parce que c'est pas vraiment quelque chose à quoi on penserait. Hein. Après tout, juste donner de l'argent comme ça, c'est pas vraiment intuitif qu'il y ait des personnes qui acceptent et qui trouvent vraiment du plaisir. C'est pas la même chose hein, que donner comme ça de l'argent, des cadeaux, etc. à un copain, une copine, quelqu'un avec qui on est en relation. Donc ça peut surprendre, clairement. Ça fait partie, à mon avis, des choses assez connues du BDSM qui sont assez surprenantes. Mais ça fait aussi partie, comme je viens de vous le montrer, j'espère, des choses qui sont très surfaites et dont on parle beaucoup trop, et qu'on présente de façon très exagérée. Pour moi, c'est absolument clair, hein, la réalité est infiniment plus modeste que tout ce qu'on vous aura présenté. Hein. Si vous lisez dessus, gardez ça à l'esprit. Hein. Ça existe, c'est sûr, mais même si on vous présente des exemples qui seront probablement extrêmes, on va vous parler de gens qui sont des millionnaires, qui dépensent des sommes folles pour leur dominatrice, ce sont des cas tellement extrêmes qu'on peut les oublier, évidemment. Mais ça reste quand même une assez intéressante et originale par bien des points, pratique qui se fait donc dans le BDSM. Quelque chose auquel on penserait pas, auquel on s'attendrait pas, et qui aide à illustrer l'immense variété hein, des pratiques qu'on peut trouver dans le BDSM, et certaines sont un peu surprenantes, comme celle-ci. J'espère que cet épisode vous aura intéressé et qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées d'épisodes pour le podcast ou d'articles pour mon site, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous pourrez trouver aussi mon adresse email sur le site du podcast à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.